Son passage dans le camp adverse avait tranquillisé les puissances financières qui gouvernaient le pays sous le couvert de l'alternance électorale. Koeperman à la Maison-Blanche, c'était l'assurance d'un certain suivi dans les relations internationales. Cela dit, si George Bush Jr., qui détestait son laisser-aller de bon vivant agnostique, l'avait reconduit dans ses fonctions, c'était moins pour lui prendre des idées que pour éviter qu'il n'en donne encore aux démocrates. « Pourquoi une datation au gaz carbonique ?» s'enquit le maître du monde. Un silence embarrassé nimba le tintement des petites cuillères. « Le carbone 14, monsieur le président, rectifia délicatement Irwin Glasner, est un atome radioactif présent dans toute matière végétale ou animale de manière infinitésimale et constante. À la mort de l'organisme, le C14 se désintègre petit à petit selon une loi mathématique immuable, et c'est en le pesant qu'on peut définir précisément l'âge de cet organisme. » Le président toisa son ancien ami d'enfance, compagnon des années de doute qu'il revoyait toujours avec un mélange de gêne et d'émulation. Glasner, qu'il avait longtemps envié pour son aisance naturelle, sa manière de tenir l'alcool, sa culture et la médiocrité reposante de ses parents, était devenu une épave. Il y avait une justice. « Pour vous, Irwin, c'est censé être fiable. »«
Le C14 a la réputation d'être infaillible, monsieur. »«
Il n'empêche, » intervint Buddy Koeperman en sortant de sa poche des fiches graisseuses, « que votre carbone a daté de 24 000 après Jésus-Christ des coquilles d'escargot encore vivants, que les 5 mesures successives du site de Jarmeau ont donné un écart de 50 siècles, que la momie 1770 du musée de Manchester accuse une différence de 1000 ans entre son squelette et ses bandelettes, et qu'un laboratoire de Tucson a récemment daté un corps viking de 2006 après Jésus-Christ, projetant dans le futur un objet vieux d'un millénaire et demi. Vous m'excuserez, mais comme technique infaillible, je préfère encore le pendule. »
Bush crispa les mâchoires et demanda pourquoi les États-Unis n'avaient pas appliqué au linceul du Christ une méthode d'expertise plus probante.
À un moment donné, monsieur le président, il était peut-être opportun pour nous de valider l'hypothèse d'un faux médiéval. L'homme en gris avait parlé d'une voix ferme et calme. Devenu le point de mire, il ôta ses lunettes et les essuya.
Et pourquoi ? S'insurgea le président. Pour affaiblir la foi en Dieu et renforcer les ennemis de la religion ?
Pour nous permettre de travailler tranquille. Partagé entre la gloire de Dieu et la préférence nationale, Bush marqua un temps d'arrêt. Puis il croisa le regard perplexe d'Irwin Glasner et dit à l'homme en gris :
Présentez-vous.
Docteur Philip Sandersen, hématologue et généticien. J'ai participé aux examens du STURP à Turin en 1978. Les analyses de mes prélèvements ont révélé la parfaite conservation du sang, due probablement à l'action inhibitrice de la myrrhe et de l'aloès imprégnant le tissu. La présence d'albumine atteste qu'il s'agit de sang humain, et celle de bilirubine confirme que le sujet a été longuement torturé. Il s'exprimait avec des vagues dans les sourcils, une lenteur élégante et le ton modulé de ceux qui s'écoutent parler, conscients de leur impact. J'ai entrepris la recherche d'ADN, mais il me fallait davantage de sang. Sollicité par le cardinal gardien du linceul pour surveiller les prélèvements du 21 avril 1988, destinés à la carbodatation, j'en ai profité, une fois ceci effectué, pour placer des rubans adhésifs sur les 5 plaies, là où la concentration sanguine est la plus forte. Incrédule, Irwin Glasner écoutait son collègue avouer en toute bonne conscience, avec une lueur de fierté patriotique dans l'œil, qu'il avait, pour son usage personnel, pompé sans vergogne le sang du Christ sur l'icône la mieux gardée au monde. Légèrement penché en avant dans sa bergère en velours blanc, le docteur Sandersen présentait son forfait comme une contribution à la recherche scientifique américaine. Et tout le monde avait l'air de trouver ça normal.
Cette fois, les analyses ont dépassé mes espérances. L'ADN présent dans les globules blancs était subdivisé en 323 bases seulement. Preuve de sa très grande ancienneté, un ADN récent en comprend des millions. J'ai donc appliqué la PCR,
réaction de polymérisation en chaîne destinée à amplifier et multiplier l'ADN non dégradé. Les résultats obtenus ensuite au moyen des séquenceurs, en fait le décryptage génétique du crucifié, m'ont amené à contacter le gouvernement dès la première réussite de mes expériences. Je ne pouvais pas, avec mon seul laboratoire, assumer la responsabilité ni le coût des perspectives qui s'ouvraient devant moi. L'onde de choc se répercuta dans le bureau ovale. Chacun restait bouche bée, sauf les trois faucons qui avaient déjà étudié le dossier avec le président, et Buddy Kupperman qui, furieux d'avoir été tenu à l'écart de cette histoire par l'administration Clinton, griffonnait rageusement une fiche.
« Et malgré les preuves hématologiques que vous déteniez, » s'indigna soudain le professeur McNeil, « vous avez laissé nos collègues de l'Université d'Arizona imputer l'empreinte du Christ à un faussaire du Moyen-Âge !»
En dissociant le linceul de la personnalité historique de Jésus, nous avons conservé notre avance, expliqua Sandersen au président qui restait tourné dans sa direction. Laisser croire que le sang du Christ était de la peinture médiévale n'incitait pas les Européens à y chercher de l'ADN.
« Mais qu'on arrête de parler du Christ !»
s'écria le pasteur Hunley qui se sentait dépossédé.
« Vous avez analysé le sang d'un crucifié datant peut-être du 1er siècle, soit, mais rien ne prouve que c'était Jésus. « Et qui voulez-vous que ce soit d'autre ?»
glapit McNeil.
« Historiquement, aucun autre homme n'a jamais été condamné à porter une couronne d'épines. En fait, un instrument de torture dont les pointes s'enfonçaient dans le crâne chaque fois qu'il redressait la tête sur la croix, on voit parfaitement le tracé des coulures. Et les cheveux, regardez la longueur. Les Nazaréens n'avaient pas le droit de les couper. Les 120 traces de fouet attestées par les chirurgiens, les 5 plaies authentifiées, l'impression retrait sans contact, les évangiles, les historiens, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? J'en ai assez que les religieux cassent le travail des scientifiques.
La foi, professeur, n'est pas une affaire de preuves.
Eh bien, gardez la foi et laissez-nous les preuves.
Le prêcheur se tourna vers le président et ravala aussitôt sa demande d'arbitrage. Les commissures des lèvres abaissées, les doigts crispés sur son revers et le regard dans le vide, George W. Bush avait l'air de prêter serment. Ses collaborateurs connaissaient bien ces moments où il rentrait en lui-même, sans qu'on sache pour combien de temps ni pourquoi faire, alimenter la colère qui allait éclater ou s'efforcer de la contenir. Une pluie fine tombait sur les carreaux derrière le bureau et ils s'y intéressèrent en attendant que le patron revienne parmi eux.
« Que dois-je savoir sur le clonage ?»
Irwin Glasner sursauta. La question du président était pour lui. Cueilli à froid, il vit tous les visages s'orienter dans sa direction, se sentit rougir et croisa les bras pour dissimuler le tremblement de sa main droite. Après s'être éclairci la voix, il se lança dans un exposé sur l'énucléation des ovocytes au début de leur cycle de division.
« Concrètement ?»«
Vous prenez un ovule non fécondé, monsieur le président, vous éliminez son noyau par aspiration et vous le remplacez par... » Il s'interrompit soudain.
« Oui ?»
Le regard fixé sur les deux posters du linceul de Turin, Irwin Glasner venait de faire le lien entre sa spécialité et la discussion en cours.
« Je le remplace par quoi ?»
Avec effort, Irwin revint dans le regard présidentiel et reprit en essayant de ralentir son cœur. « Vous le remplacez par le noyau extrait d'une cellule de l'animal à cloner, après avoir affamé l'ovule afin de reprogrammer l'ADN de son nouveau noyau. Si tout se passe bien, vous initiez le développement d'un embryon, vous l'implantez dans une femelle porteuse et il produira un être génétiquement semblable à celui dont provient la cellule d'origine. » Bush promena un regard inquisiteur sur les visages attentifs. Un maître d'hôtel lui apporta un téléphone sur un plateau. Il répondit trois mots à la première dame, raccrocha, enchaîna.
« Des dates. »
L'équipe de Brix à Philadelphie a réussi à cloner des grenouilles au moyen de cellules embryonnaires dès 1952. À partir de 1986, nous avons obtenu un veau, puis nous avons cessé de communiquer. Les Européens, eux, ont continué à gaver l'opinion publique avec leurs souris, leurs lapins et leurs porcs jusqu'au point culminant de 1996, la naissance de la brebis Dolly. Les Anglais affirmaient que pour la première fois, on avait réussi à cloner un mammifère à partir de cellules somatiques adultes, mais en secret, nous l'avions déjà fait.
Nous ?
Les États-Unis, précisa Irwin. Certains de mes collègues à partir des années 90.
Sur l'être humain ?
Sur certains organes dans une optique d'utilisation thérapeutique,
mais avec un pourcentage d'échecs avoisinant les 98%.
Le but était d'obtenir des cellules totipotentes identiques à celles du donneur et de les faire évoluer pour lui fournir d'éventuelles pièces de rechange. Neurones en cas de maladie de Parkinson, cellules pancréatiques pour soigner le diabète, tissu cardiaque après un infarctus. Je précise que, personnellement, je n'ai travaillé que sur le clonage bovin.
Il s'efforça d'affronter l'image du barbu à cheveux longs sur l'épreuve négative, puis ajouta pour clore le chapitre
« Je sais bien que la secte raélienne prétend être sur le point de faire naître le premier clone humain, mais je n'y crois pas. »
« Vous n'y croyez pas. »
Glasner avala sa salive, gêné par le sourire condescendant qu'affichait l'homme en gris, et précisa en désignant les images du linceul
« En tout état de cause, concernant l'hypothèse de clonage à partir d'un ADN qui daterait de 2000 ans, c'est rigoureusement impossible. »
« Ils l'ont fait, » laissa tomber le président.
Glasner crocha les doigts sur les montants de sa chaise. Le dossier vert circula jusqu'à lui. Il lut les rapports, compara les génotypes, les analyses, les bilans, les photos. La pendule de la cheminée sonna dans le silence feutré. Après quelques minutes, il releva la tête. Une sueur glacée trempait son cou et les mots se refusaient. Il croisa le regard du pasteur qui, mordant ses lèvres, fixait le dossier vert avec des espoirs d'exclusivité. Buddy Kupperman, mâchoire pendante et bras ballants, avait laissé tomber ses fiches. Abîmé dans la contemplation du crucifié, le professeur McNeil pleurait.